qui n'exclut plus la question de la révolution en considérant que c'est un terme passé et que plus personne ne serait capable d'être révolutionnaire aujourd'hui. Et je pense que j'ai terminé, que du coup on peut passer au débat, aux interventions dans la salle. Faire un tour de parole. Vas-y. Ouais.
Bonsoir. J'avoue que ce soir, il y a certaines expressions lors des différentes présentations qui m'ont gêné. Donc, je pourrais difficilement reprendre les interventions l'une après l'autre. Mais c'est vrai que quand j'entends parler de laïcat, ça me pose problème. Je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai qu'on a souvent entendu par rapport à la laïcité, comme a pu le faire ce qu'il est convenu d'appeler la deuxième gauche à une époque, dire la CFDT maintenant et tout ce qui s'ensuit, quand on parle de laïcité ouverte, de laïcité tolérante. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, la laïcité, c'est la laïcité. Point à la nuit. Et. Moi, c'est pas. Je ne vois pas comment on peut faire un amalgame, comme je l'ai entendu, où on cite à la fois le Front National, la droite, la gauche qui se revendique de la laïcité, mais dire ça, c'est ne pas savoir ce qu'est la laïcité. Penser que le Front National, qui effectivement utilise ce terme, est un parti laïque, le Front National n'est absolument pas laïque. Moi, ça me choque. En fait, c'est tombé dans le piège que tend l'extrême droite, qui se prétend laïque. L'extrême droite n'est pas laïque. L'extrême droite n'est pas laïque. De même qu'aujourd'hui, ni le Parti socialiste, qui est un parti de gouvernement, ni les différents mouvements de droite ne sont des partis laïques. Donc ça me choque, parce que c'est un dévoiement de ce que peut représenter l'idée de la laïcité, qui est justement peut-être une idée qui, à l'époque où elle a été construite, est une idée d'extrême tolérance, qui permettait une grande liberté au niveau des individus. Donc, sans prendre à la laïcité, moi, c'est quelque chose que je trouve quand même assez outrancier. Parler d'islamophobie, moi l'islamophobie, je ne sais pas ce que c'est. Parce que je suis opposé à toutes les religions, quelles qu'elles soient, et je pense être sain d'esprit. Alors le terme islamophobie, moi je voudrais bien que l'on me dise, que l'on me réponde depuis quand ce terme est apparu. Ça me fait penser un peu dans les années 70, quand on parlait d'anticommunistes primaires. Quand on commençait à dire qu'en URSS, il y avait des camps de concentration, tout de suite, il y avait ceux que les marxistes appelaient les imbéciles, comment dit-il ?
Les idiots utiles.
Ouais, les idiots utiles, merci. Dès que quelqu'un parlait de camp de concentration, on lui sautait dessus en disant « Ah non, non, tu fais de l'anticommunisme primaire. » Eh bien, moi, je suis désolé. Je peux critiquer l'islam comme je peux critiquer d'autres religions quand elles empiètent dans des domaines où elles n'ont rien à faire, sans être un islamophobe. Je pense être sain d'esprit. Je ne pense pas aller régulièrement chez le psychiatre pour qu'il me soigne. Donc, moi, c'est quelque chose, chaque fois que je lis ça dans la presse libertaire, ça me fait faire des bons. Je peux tout à fait avoir des relations cordiales, amicales, avec des musulmans. C'est leur problème. Je déplore, mais bon. Après, c'est leur problème. Mais je ne suis. Mais c'est hallucinant, quoi. Il faut arrêter avec ce terme, hein. Islamophobe. Mais ça veut dire quoi, islamophobe ?
Ça veut dire quelque chose.
Par exemple, quand on ne veut pas que l'argent public finance la construction de mosquées, alors, on est un islamophobe ? Non, on n'est pas un islamophobe. On est laïque. Moi, je suis militant anarchiste, comme l'est le camarade du groupe Regard Noir. Je ne pense pas que quand la fédération anarchiste a financé sa librairie, elle a demandé des subventions de l'État. C'est logique. Je suis syndicaliste, à la CNT, on ne demande pas de subvention de l'État. D'accord ? Donc, que les musulmans veuillent, ou les catholiques, ou les protestants, j'en ai rien à faire, qu'ils veuillent faire leur culte, ah mais c'est leur droit le plus strict. Après, qui finance leur culte, qui finance leur lieu de réunion, c'est tout. Mais qu'on arrête avec l'islamophobie. Quand on dit que le Front National est... Le Front National, c'est un parti raciste. C'est un parti raciste qui, effectivement, prend prétexte, parle de l'islam, va parler de laïcité, mais c'est complètement tronqué. Moi, je voudrais que l'on m'explique en quoi le Front National, puisque l'un des intervenants a précisé que le Front National était laïque, non pas de parler de laïcité, mais était laïque, en quoi le Front National, qui est essentiellement dominé par des chrétiens, est-il un parti laïque? Moi, je voudrais qu'on me l'explique, et même pas. Moi, il y a plein de choses ce soir qui...
tu te répètes, ouais.
Oui, peut-être. Il y a plein de choses qui me surprennent. Par exemple, attends, je vais terminer sur un point par rapport à la théologie de la libération. La théologie de la libération, c'est tout ce que l'on veut, sauf une libération des peuples et de l'individu. C'est hallucinant d'entendre des choses pareilles, quoi. C'est hallucinant. Merci.
De rien. Du coup, vas-y, ça va.
Moi, je crois que je vais commencer par un proverbe. Il paraît que quand on en a vu, le serpent est aveugle. Et je pense qu'on est dans une société qui connaît des changements phénoménaux et dans lequel, effectivement, il est très difficile de s'y repérer et de comprendre ce qui arrive. Ce qui fait que, pour moi, en tout cas par rapport à votre livre sur la gauche et la religion, ça infirme une partie. Vous allez chercher des origines dans le discours qui expliquerait leur l'aveuglement d'aujourd'hui. Bon, je pense que c'est pas valable. Je pense que c'est pas valable. Je pense qu'il faut rester dans un raisonnement historique. Et que, par exemple, quand les surréalistes, en 1932, faisaient une déclaration collective pour soutenir les anarchistes qui avaient brûlé des églises, bon, n'importe qui, personne ne ferait ça aujourd'hui. Mais en 1932, j'aurais signé. Parce que c'est dans un contexte particulier qui a une signification particulière, politique, etc. Donc effectivement, des idées qui traverseraient les époques sans être confrontées à une pratique. Et, bon, il a fallu, dans les sociétés occidentales, des luttes très féroces et pas très sympathiques, des fois, pour que la religion trouve une place. Dans d'autres sociétés, c'est pas encore ça. Dans d'autres sociétés, c'est pas encore ça, et ça veut dire que donc il y a une discordance dans les temps historiques qu'on vit. On vit pas dans les mêmes temps presque historiques. Et que ça, je crois que j'emprunte cette idée à Daniel Ben Saïd, et que j'ai aucun problème pour dire que je soutiens les gens qui luttent au Bangladesh contre les assassinats par les islamistes. Qui revendiquent le droit d'être athée. Ils ont mon soutien plein et entier. De même qu'au Maroc, lorsqu'une femme se fait agresser parce qu'elle a joué dans un film le rôle d'une prostituée, je veux dire, je la soutiens pleinement et entièrement. Je veux dire, et je ne mégote pas mon soutien. Et en même temps, je peux, dans le même temps, dire que je ne suis pas pour l'interdiction des signes religieux comme le voile. C'est-à-dire pouvoir penser des choses contradictoires et paradoxales parce qu'on ne parle pas du même endroit et de la même place. Et je veux dire, et de savoir d'où on parle. C'est ça qui pose un problème. Je vais donner un exemple très précis. Moi, le mot spiritualité en France, il me fait chier. Et je veux dire, parce que je suis une tradition, s'il y a une tradition, c'est celle du surréalisme. Et le surréalisme disait les questions affectives, les questions l'amour, la poésie, la beauté, etc. Je veux dire, et le spirituel vient regrouper tout ce qui est spirituel, tout, dans une sorte de chose comme ça. On met toutes ces choses-là, on le tourne dans une machine à laver, comme Souchon, et ça ressort plus blanc. Je veux dire, la spiritualité, c'est une machine à laver pour... pour ne pas nommer certaines choses qui sont essentielles et qui sont tout à fait paumées. La poésie, la beauté, l'amitié, je veux dire, des choses dont on parle. Et quand on parle de ce besoin de sentiment religieux, toutes ces choses-là que je viens de nommer, amitié, beauté, etc., tout ça sont détruits par la société capitaliste aujourd'hui, dans une sorte d'uniformisation du monde. Et c'est cela que les gens revendiquent. Alors, bien entendu, ça peut aller, excusez-moi d'être un peu long, ça peut aller jusqu'au désir de mourir. Jusqu'au désir de mourir parce qu'on ne peut plus supporter la société dans laquelle on est. Donc, la question de la spiritualité. En revanche, j'ai travaillé pendant longtemps avec des réfugiés guatémaltèques et au Chiapas et des déplacés. Quand les réfugiés guatémaltèques me parlent de spiritualité maya, je ne vais pas les emmerder avec ça. En fait, tu comprends, moi, je trouve ça, c'est merdique la spiritualité. Je veux dire, ça correspond à une pratique, à un échange. Mais quand on discute concrètement, et quand on discutait dans les camps de réfugiés au Chiapas avec les réfugiés guatémaltèques, je veux dire, et avec des gens comme Aubry ou comme l'archevêque de San Cristobal, quand on discutait jamais de spiritualité. On discutait toujours de tâches concrètes pour la survie des personnes, pour leur survie, y compris psychique, parce que le psychique existe. Je veux dire, et cela, je veux dire, donc la spiritualité, c'est pas le bon, on n'a rien à reconquérir. Et je pense que, en revanche, il y a des mots qu'on devrait commencer à opposer, comme le mot poésie, comme le mot beauté, comme, je veux dire, et c'est vrai que Philippe Corcuff fait des fois un travail autour des chansons, en piquant ces choses-là, mais pour moi, qui ne relève pas de ce qu'on appelle la spiritualité. Ou alors, il faudrait revenir peut-être à la définition que donne quand Peggy oppose la spiritualité à l'argent. Quand il dit, ça y est, l'argent a gagné, c'est lui qui domine le monde, et je veux dire, il n'y a plus aucun autre espace pour vivre. Mais à ce moment-là, dans le sens de spiritualité. Donc on voit bien que la question de la spiritualité, c'est une question. Il est pris dans une énorme. Et la question des religions, il est très souvent associé à la religion. Et pour moi, je veux dire, on a du mal à se départir de cette polysémie. Et donc, il faut bien qu'il y ait une bataille sur les mots. Et je trouverais, ici en France, que de vouloir arracher la spiritualité à la religion est une vaine bataille et que c'est pas ça, c'est avec nos armes qu'il faut lutter et avec notre culture. Parce que l'autre exemple que je vais donner, excusez-moi de terminer, quand je travaillais avec des gens d'autres cultures, ce qui m'a toujours frappé, c'est quand j'essayais d'être comme eux, ils me méprisaient. Et quand j'étais ce que je suis, d'où je viens, eh bien, c'est ça qui les intéressait, et c'est-à-dire ce qui les intéressait, c'est que je sois un étranger. Et ce qui m'intéresse, c'est l'étranger, c'est pas qu'on soit tous pareils. Et, je veux dire, et que ça, cette chose-là, c'est cette chose-là qu'il faut commencer à travailler. C'est-à-dire s'habituer à vivre avec nos différences, et en même temps, et je terminerai là-dessus, ce qui m'a surpris dans toutes mes expériences, ça a toujours été non pas les différences, mais les extraordinaires ressemblances entre les êtres. Je veux dire, quelle que soit leur religion, leur croyance, etc. Et quand on parle, ben, vous commencez à parler de problèmes d'amour, d'affection, etc. Ben, vous voyez que vous allez dans n'importe quel pays, c'est le même problème. Hein. C'est la même chose qui se passe. Quand vous parlez de questions de travail, de fatigue au travail, du travail, c'est la même chose. On vous parle des mêmes choses. Voilà. Excusez-moi d'avoir été long, mais je pense que c'est important de pouvoir aussi préciser les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul endroit où on peut parler et on peut avoir une parole plurielle.
Alors, juste du coup, en continuant le débat, je pense que c'est pas mal si les gens se présentent par le biais qu'ils veulent et qu'elles veulent avant de parler, comme ça, ce sera plus simple pour repérer. Donc, on continue le tour de parole, du coup, bah, René.
Je m'appelle René Berthier, je suis à la Fédération Fasciste et à la Fédération du Livre CGT, retraité. Corcuff dit souvent qu'il est un anarchiste néophyte. Ça fait quand même 3 ans qu'il est à l'AFA, alors il faudrait qu'il arrête. Et j'ai toujours un peu l'impression qu'il est surpris de ne pas avoir été encore exclu. Je veux le rassurer, personne à ma connaissance, je connais pas mal de monde à l'époque pourtant, ne songe à l'exclure. Une des premières choses qu'il a dit ce soir, c'est que l'AFA avait un problème avec les religions. C'est pas vrai. L'AFA n'a pas de problème avec la religion. Elle a un problème avec Dieu.
Lequel?
Le seul, le vrai, il y en a qu'un. Mais c'est toujours le même Dieu, globalement. La question n'est pas celle de la religion, c'est celle de Dieu. Dieu, c'est le stratégique, si on veut, et la religion, c'est le problème tactique. Sur les religions, c'est-à-dire la manière dont les gens s'organisent par rapport à leur croyance à Dieu, c'est autre chose, c'est pas ce qui est vraiment important. Le problème philosophique essentiel, c'est est-ce que Dieu existe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une cause première. Et il y a un aspect de la question qui n'a pas du tout été abordé ce soir, bien que je trouve ça extrêmement intéressant, les différentes interventions, c'est celui de Dieu, justement. Pas des religions. Il y a aussi une autre question qui n'est pas abordée du tout et qui est liée avec celle de la croyance en Dieu, qui pour moi est essentielle. C'est qu'on ne parle jamais dans la gauche, l'extrême gauche, et y compris dans le mouvement anarchiste, hélas, je dirais, on n'a jamais autant parlé de spiritualité et de croyance et de respect des religions que depuis que les religions régressent. Il y a des enquêtes qui ont été faites par Gallup en 2003 et 2011 qui révèlent qu'en gros 35% des Français croient en Dieu et le reste se partage entre ceux qui disent ne pas avoir de religion et ceux qui se disent athées, à peu près à part égale. Donc la question de la croyance en Dieu et de la religion est une question minoritaire dans la société française. Or, on en fait tout un plat, et y compris dans le mouvement anarchiste, y compris Corpus, évidemment. Bon. Or, je pense qu'il faudrait retomber un peu sur nos pieds et mettre les choses dans leur réelle perspective. C'est que, et ces deux sondages que je mentionne montrent qu'il y a une progression vers la régression de la croyance. C'est-à-dire que plus ça va, moins les gens croient en Dieu. Bon. Donc, je pense qu'une stratégie concernant la religion dans le mouvement anarchiste, que c'est ça qui m'intéresse, pas seulement, mais à propos, c'est qu'il faut tenir compte de ce fait. Bon. Maintenant, dernier point que je voudrais soulever, c'est que à partir du moment où on dit Dieu n'existe pas, bon, voilà, c'est le problème de. On ne peut pas être, à mon avis, on ne peut pas être anarchiste si on croit en Dieu, parce que Dieu est une négation de l'humanité. Bon, voilà. M'étendre là-dessus. Mais ça n'exclut pas qu'on puisse travailler tous les jours avec des gens qui croient en Dieu. Bon, moi, j'étais à la CGT du Livre, il y avait des tas de camarades qui étaient musulmans, qui croyaient en Dieu ou qui ne croyaient pas, parce qu'il y en a qui n'y croient pas non plus. C'est un aspect qu'on a tendance à occulter, ça, dans le mouvement anarchiste. Et en particulier chez certains camarades. Le travail avec des gens qui se déclarent religieux, c'est quelque chose de normal, sinon on ne travaillerait plus avec grand monde. Donc ça, c'est une chose. Il y a un groupe américain, un groupe anarchiste américain, qui a déclaré qu'aux États-Unis, en France, il y a 30 à 35% d'athées. Sans parler de ceux qui déclarent pas avoir de religion. Aux États-Unis, c'est 4%. Il y a un groupe américain qui a dit on n'aborde plus la question de la religion, parce que c'est trop difficile. C'est-à-dire que c'est une société quasi théocratique dans laquelle le mouvement anarchiste abandonne, en tout cas ce groupe-là, a abandonné le combat contre la croyance en Dieu parce qu'ils sont tellement écrasés par la pression sociale qu'ils ne se sentent plus capables de le faire. Je trouve ça lamentable. C'est une trahison des idiots anarchistes. Bon, voilà. J'avais plein d'autres choses à dire. On va regarder avec ça.
C'est à toi.
Oui. Donc, je m'appelle Catherine de Forestier. Bon, il se trouve que au début des années 70, je me suis convertie à l'islam. Je vis au Maroc. Alors, pourquoi j'en parle? Pourquoi d'abord il y avait plusieurs, notamment en Angleterre, il y avait pas mal de gens qui étaient attirés par, par l'islam jusqu'à la seconde guerre, parce qu'il y avait la dimension spirituelle, d'accord, mais il y avait aussi la dimension justice sociale, et je crois que c'est d'ailleurs ce qui avait défini tout au début de la révélation, ce qui avait pourquoi l'islam avait si bien réussi, c'était tellement bien étendu, c'est parce qu'il y avait une dimension de justice sociale. Et en pleine, donc, en 70, la révolution, l'utopie, la révolution d'une autre société, la recherche d'une société, on pouvait effectivement être attiré par ça. Alors pourquoi j'en parle, c'est pas pour moi, mais c'est que maintenant, évidemment que je parle sur un plan subjectif, parce que l'islam c'est immense et c'est très divers, il y a plein d'islams différents, il y a plein de façons d'être musulman. Mais ce que je vois, moi, c'est qu'actuellement, l'islam, d'accord, bien sûr que c'est très sérieux, bien sûr que ça représente, sur le plan personnel, comment, une sorte de... Enfin, donner un sens à sa vie, par exemple. Sur le plan politique, justice sociale, bien sûr. Mais j'ai l'impression, moi, que tout ça... c'est instrumentalisé pour en faire une machine de guerre, en réalité. Et que cette guerre, eh ben, elle a lieu entre des puissances qui en fait croient dans le même Dieu, qui est l'argent. C'est une analyse personnelle. Et justement, bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la seule façon de sortir de ça, c'est... que chacun prenne ses responsabilités et se rencontre et discute. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors pourquoi justement les gouvernements sont contre ça? On peut se poser la question. Voilà, c'est tout.
Merci. C'est à toi.
Oui, William Suche, je ne suis pas anarchiste. Je suis vieux. J'ai passé 40 ans de ma vie dans les pays arabes. J'ai fait l'effort d'apprendre leur langue. C'est pas facile parce que dans tous ces pays, on parle une autre langue, soit l'anglais, soit le français, soit l'italien. Ce qui fait que la plupart des étrangers qui vont dans ces pays ne font pas l'effort d'apprendre leur langue parce qu'on communique très bien dans la langue de communication qui existe. Je voudrais faire juste quelques remarques et je vais essayer d'être assez bref. D'abord, je ne supporte plus que l'on mette ensemble islamophobie et antisémitisme. Islamophobie. Ça concerne le rejet, la haine, quelquefois, d'une spiritualité, d'une religion. L'antisémitisme, ça, qu'on soit raciste, pardon, de rejeter une ethnie, des gens qui ne peuvent pas changer ce qu'ils sont. On peut abandonner une religion, on ne peut pas abandonner le fait d'être juif. On est sémite, on est comme on est. C'est comme si je disais à monsieur de devenir blanc. Il me dirait, je ne peux pas. Même si je veux, je ne peux pas. Voilà. Maintenant, je peux lui dire, tu es musulman, deviens chrétien, ça, c'est pas parfait. Bon, ça c'est un point qui me gêne toujours dans le débat. La deuxième chose, j'ai écouté beaucoup, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a un mot que je n'ai pas entendu tout à l'heure, c'est la foi. La croyance, tout ce que vous voudrez, la foi. La croyance, on peut en changer, on peut l'abandonner. La foi, on peut la perdre, c'est ce qui peut vous arriver de pire. C'est destructif, perdre la foi pour quelqu'un qui l'a. Et ça, c'est un mot que je n'ai pas entendu, parce que se confronter à la foi, c'est un autre problème que se confronter à des croyances ou à des modes de vie. Et apparemment, je ne l'ai pas entendu aborder ici, pensez-y. J'ai entendu Mme Jocelyne Dalia parler d'Irak, j'y ai passé 4 ans, avec des hommes de Saddam Hussein. Je peux vous dire qu'actuellement, ils ne se battent pas pour l'islam. Ils se battent pour mettre une raclée aux chiites qui leur ont pris la place. C'est tout. C'est la seule chose qui les intéresse, et ça je peux vous le garantir. Ça c'est très clair. Ils n'ont pas de visée pour le califat, ils se moquent royalement du califat, c'est le cadet de leurs soucis. Des exemples de terrorisme, dans un cadre un peu différent, mais pendant la guerre Iran-Irak, c'était des enfants de 10, 11, 12, 13 ans que les Iraniens donnaient des gris-gris, et mettaient en avant, en les envoyant se jeter sur les armes des Irakiens pour essayer d'emporter une bataille ici ou là. C'était du terrorisme sous une forme différente. C'était la même démarche intellectuelle qui consistait à envoyer des gens se faire tuer pour défendre une cause. Je ne crois pas que l'on puisse aujourd'hui traiter le problème des terroristes en disant ce ne sont pas des musulmans ou ce sont des musulmans. C'est très complexe, le livre de Fethi Ben Salama montre bien à quel point la façon de se radicaliser est multiple, mais j'ai relevé quelque chose qui m'a surpris, parce que tout à l'heure on a parlé de radical, on a parlé de gauche radicale, et ça c'était bien. Puis on a parlé d'islam radical, et ça c'était mal. Donc le même adjectif, selon que vous le mettez après gauche ou après islam, il change de sens apparemment. Et moi je me méfie beaucoup des adjectifs. Je suis un homme simple, vous dites justice, vous ajoutez militaire, et tout le monde a compris que c'est pas pareil. Donc, je me méfie aujourd'hui le monde est devenu très complexe, et il n'y a plus de pic de la miroir. Nous ne savons plus, nous ne sommes plus capables de tout savoir, de tout comprendre. Ça devrait nous rendre très prudents dans nos conclusions, dans nos discussions. J'ai entendu des affirmations péremptoires. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas assez intelligent pour raisonner, je ne suis pas prof à l'université, je suis juste quelqu'un qui écoute et qui essaie de mettre ensemble tous les morceaux. Et je voudrais poser une question à toutes les personnes qui s'occupent de l'anarchie, et de libertarisme, de libertaire, parce que je sais que ce mot a été créé pour cacher le mot anarchie, parce qu'à un moment donné, si on était anarchiste, on était bon pour la prison, voire pour l'autoriquer. Donc c'était très mal vu, et aujourd'hui on peut l'être. Mais je voudrais vous poser une question, je voudrais que vous me disiez si l'anarchisme est une action ou une réaction. C'est très important pour moi de comprendre si l'anarchisme est né de l'autorité, ou s'il a sa propre existence, s'il a toujours existé. On m'a cité Protagoras tout à l'heure qui disait « Je ne peux pas vous dire si Dieu existe puisqu'il est invisible, mais s'il admet qu'il est invisible, il admet que Dieu existe. » Ça me paraît là quelque chose d'assez curieux dans le raisonnement. Plus Protagoras, on a des petits morceaux, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, et en rajoutant, en complétant, en rajoutant des lignes, hein, on doit avoir quoi, 3 pages de Protagoras, on a dû écrire 500 bouquins. Hein. Voilà, je serai bref, je m'arrêterai là. Simplement, je souhaiterais qu'on m'explique si c'est une réaction ou une action, et puis surtout une certaine prudence dans les conclusions qu'on tire vite et bien de tout ce qui peut se dire ici ou là. J'aurais d'autres choses à dire.
Au fond, c'est à toi. Ouais.
Alors je suis désolé, bonsoir, je m'appelle Gordon Berger Hyacinthe. J'ai malheureusement pas eu le temps de tous vous rencontrer et d'écouter tous les sujets que vous avez exposés. J'ai entendu parler énormément de religions monothéistes, énormément de conflits par rapport à la foi, justement, le fait de croire en soi ou de croire en quelque chose de plus puissant. Je suis allé dans un pays, beaucoup de fois dans ma vie, qui est l'Inde, qui est devenu une démocratie grâce à Mussolini et à Hitler. Ils ont vu comme il est, j'avais pas abordé le thème très peu quand j'étais là, en tout cas le thème des juifs. C'est-à-dire que les ennemis de mes ennemis sont souvent mes amis. Et j'espère que les amis de mes amis peuvent peut-être devenir mes amis. Il a laissé sortir un monsieur de ce pays qui était sous le joug anglais. Donc la pression militaire, la pression politique, afin de le faire venir en 1942 à la radio nazie et déclarer l'indépendance de l'Inde. C'est un pays dans lequel il y a énormément de religions. Et on m'a reproché, la fois dernière où j'y suis allé, de ne pas avoir choisi une religion. Donc je ne fais même pas la différence entre le fait d'être athée ou la laïcité, parce que je manque de lecture, je ne lis plus aucun livre depuis des années. On m'a demandé si, en m'appelant Yacine, je n'étais pas musulman. Je lui ai dit non, et j'étais dans un centre de pratique de soins et d'art martial qui voue plusieurs dieux. Et je lui ai dit non, je ne suis pas musulman. Il m'a dit mais tu es chrétien. Je lui ai dit non, je ne suis pas chrétien. Il m'a dit tu es hindou parce que j'avais la patte de santal sur le front. Je revenais du temple de Ganesh. Et il m'a dit mais tu es hindou. Je lui ai dit non, je ne suis pas hindou. Je suis athée, je ne crois pas en un dieu quelconque. Je crois aux gens qui croient. Je vous souhaite de continuer à croire dans vos idéaux et d'avoir la force de mener vos idées à bien. Je suis allé ensuite dans un orphelinat chrétien où seule la mère supérieure a compris que je ne voulais pas choisir un dieu parce que si je choisissais un dieu, j'allais mettre tous les autres en colère. Qui que vous soyez, vous êtes les propres créateurs de votre avenir. je vais prendre le mien en main et je vais partir d'ici, d'ici quelques secondes. Merci de m'avoir laissé mettre un pied dans cette salle et continuer à évoquer vos idéaux et ce qu'il y a au fond de votre cœur. Parce que la seule chose dans laquelle il faut croire, c'est en soi et en l'amour.
Amen.
Oui, bon, bonjour, donc merci pour toutes les interventions. Comme tout le monde, c'est vrai qu'il y a tellement de choses intéressantes qu'on a envie de réagir à tout. Enfin, je m'appelle Nina Marzouki, et je vais un peu dire d'où je parle, comme certains l'ont fait. Donc, je dirais que je viens du courant théologie de libération. C'est un peu c'était très intéressant ce que vous avez dit par rapport à ça. Donc politiquement, je suis clairement dans la gauche radicale, donc idéologique. Je trouvais très intéressant ce que j'avais vu sur le blog de Philippe Corcuff par rapport au partage des fragilités et aussi par rapport à des espaces pluriels où on peut échanger entre des croyants qui ne veulent pas forcément convertir d'autres à leur propre religion, et des athées ou des agnostiques qui ne voient pas forcément des croyants comme des alliés. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Et je me suis également posé la question alors que sur le plan politique, je dirais pour moi, le sens de l'action politique, c'est de lutter ou d'aller à l'encontre de tous les rapports de domination et de toujours s'opposer à tout, à la loi du plus fort et à tout rapport de domination. Alors que je ne suis jamais allée très loin dans mon intérêt pour le mouvement anarchiste. Et je pense qu'effectivement, ça vient du fait que d'emblée, il y avait très fort l'idée qu'il faut être contre Dieu, comme quelqu'un l'avait dit, qu'il faut être contre les religions. Alors, et ça m'a donc à chaque fois tout de suite arrêté. Ça, je ne voulais pas. Et que, par contre, je pense que sur plein de plans, sur le plan politique, c'est en fait exactement ma tendance. C'est-à-dire que, communiste, sans un État qui écrase et sans violence, très internationaliste, très anti-impérialiste, très anti-raciste et anti-patriarcal. C'est exactement mes orientations. Donc s'il n'y avait pas eu on est contre Dieu, je pense que ça aurait pu m'intéresser. Mais j'ai découvert en fait très tard que l'anarchisme, c'est d'une certaine façon ça, puisque je me suis à chaque fois tout de suite arrêtée parce qu'il y avait on est contre Dieu. Donc ça, je ne voulais pas. D'autre côté, je comprends très bien, je suis tout à fait consciente, je l'ai été assez rapidement, de la possibilité aliénante de la religion, et même de la foi en Dieu, qui peut effectivement rendre malade jusqu'à la névrose. Ça, c'est quelque chose qui me paraît évident. Mais c'est une possibilité. Et la foi, la religion, je l'ai vu plusieurs fois, y compris que j'ai vu de mes anciens élèves qui se sont convertis à l'islam, peut également guérir. Donc ça, je l'ai vu deux fois. Vraiment, les deux élèves qui venaient d'un milieu agnostique qui se sont convertis à l'islam, vraiment, c'est spectaculaire. Peut libérer, et il y a en tout cas dans les religions, je dirais, prophétiques, un très fort potentiel de subversion qu'il ne faut pas sous-estimer, à mon avis, dans les textes. Donc, qui a été, c'est vrai, entre autres, récupéré par la théologie de libération. Ça, c'est quelque chose qui me paraît évident, et d'ailleurs, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait le lien avec les penseurs juifs d'Europe de l'Est, et vous avez dit, c'est la théologie de libération des pas juifs mais chrétiennes, mais il y a en même temps une redécouverte des textes juifs. Par exemple, le prophète Amos, qui est très important, mais qui n'était jamais les églises, mais qui est là, la théologie de libération, la redécouverte. Et Donc il y a ça. Après, je voudrais dire certaines choses par rapport aux interventions. Donc, il est vrai que je pense que le combat, si on veut, anticlérical dans l'histoire de France était tout à fait légitime et justifié, hein, dans un contexte historique français. Il y a quelqu'un qui avait dit forcément on est lié à un pays et donc on va se situer par rapport à l'histoire de ce pays. D'un côté, c'est vrai, mais je pense qu'à la fois, il faut avoir, faut voir qu'il y a des choses qui changent dans l'histoire, hein, on est au début du XXe siècle. Et aussi, je pense, donc là encore, c'est mon approche internationaliste, déjà, on n'est pas forcément qu'un seul pays. Déjà, moi, j'ai deux nationalités, mes enfants en ont trois. Hein, donc, on peut avoir là aussi donc, comment se situer. Hein, donc, il ne faut pas forcément être ancré, je pense. Il ne faut pas demander aux gens d'être ancrés dans un seul pays et dans une seule histoire. Et sur les deux autres interventions, c'était très intéressant aussi. Je voudrais dire qu'il est vrai, ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, je pense qu'en France, actuellement, effectivement, quoi, les croyances sont minoritaires, ce qui est juste très minoritaire. Oui, ça me paraît clair. Et justement pour ça, je pense que par rapport au Front National, parce que quelqu'un avait dit le Front National n'est pas islamique, etc., c'est un pays parti où la plupart des gens sont chrétiens. C'est justement pour ça, ça c'est pour l'analyse personnelle, et je termine là-dessus, déjà. Je pense que le changement du Front National vers quelque chose qui on se dit sont la laïcité, c'est pas la laïcité, mais un discours, enfin, un discours un peu anti-religieux, surtout anti-musulman, qui veut interdire le pouvoir partout, même un professeur qui voulait faire enlever le pouvoir à un étudiant qui était célébré comme un champion de la laïcité, alors que c'est le contraire. Hein, donc je pense que justement, comme les croyances sont minoritaires, c'est pour ça qu'est l'extrême droite. Peut en France aujourd'hui pas être religieuse et croyante et chrétienne, parce que l'extrême droite est toujours contre tout ce qui est minoritaire partout. Hein, en Inde, on a parlé d'Inde et des hindous. Quoi. En France, avant, elle était catholique, elle défend toujours ce qui est majoritaire et dominant. Donc forcément, elle ne peut pas être chrétienne aujourd'hui, et encore moins musulmane, et très, très bon musulmane, parce que c'est ça l'essence de l'extrême droite, c'est détester tout ce qui est minoritaire. Bon, je termine là-dessus.
C'est à toi.
Ouais, je remercie les associés qui ont préparé mieux cette soirée, parce que je suis vraiment très très affectivement. Je m'appelle Saint-Léa Marvel, je suis chercheur, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan politique, puisque professionnellement parlant, je suis sociologue, politiquement, je suis orphelin de mon organisation, j'ai créé il n'y a pas très longtemps, je suis à la recherche et je vais être très bref, en fait je voulais juste donner une citation, mais je vais la donner tout de suite et puis je vais l'éclairer un tout petit peu à travers mon expérience, parce que je pense que justement on est sur une discussion où plus que jamais, et beaucoup l'ont fait, c'est important de dire d'où on parle et de quelle expérience. La citation, je la donne, je pense qu'elle va s'éclairer après, mais c'est Jacques Ellul, hein, pour ceux qui connaissent, un théologien, justement anarchiste chrétien, qui disait dans un livre qui s'appelle « La foi au pied du doute » Il n'y a que les non-croyants pour croire que les croyants croient vraiment. Moi, mon histoire, pourquoi il me parle cette phrase ? Parce que je viens d'une famille de médecins catholiques qui ont voté à droite depuis toutes les générations que je connais, ça a toujours été le même profil. Donc j'ai été pendant 18 ans très très croyant, très très pratiquant. Et en fait, c'est au nom de la foi que je me suis retourné contre l'Église qui m'avait fait grandir. C'est au nom d'une fidélité à la foi, d'une lecture des évangiles, et que petit à petit, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a un petit hiatus. Puis à la fin, je me suis dit, mais en fait, il y a carrément arnaque sur la marchandise. Et je me suis insurgé, j'ai quasiment entamé une procédure pour me faire débaptiser tellement j'étais en colère contre cette Église à laquelle j'avais tant donné. Mais cette colère, elle était motivée vraiment par la foi chrétienne. C'est ça qui m'a poussé. Après, bon, c'est plus compliqué parce que voilà, j'ai quitté l'Église et sa foi, quand on est seul, c'est plus difficile de la vivre. C'est quand même quelque chose qui se fait à travers des moments aussi de communion, de partage, etc. Et du coup, aujourd'hui, je me considère plutôt comme agnostique que comme croyant. Mais voilà, simplement cette citation sur la foi, Et sur la croyance, peut-être qu'il faudrait distinguer les deux, elle me semble vraiment importante parce que je pense que, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue, et justement, je ne voudrais pas forcément trop la généraliser, mais en tout cas, ma croyance et ma foi, elles ont toujours été travaillées par l'incertitude, par l'inquiétude, par l'angoisse, par le fait de ne pas savoir, et maintenant que j'ai perdu la foi et que je suis agnostique, en fait, je suis toujours dans cette espèce d'incertitude, je n'en suis pas sorti. Et je pense que voilà, c'est quelque chose d'important à savoir pour ceux qui n'ont jamais, en tout cas, qui ne sont jamais passés par cette expérience. Voilà, on n'est pas tous nés dans une famille avec des parents pratiquants, qui sont musulmans, juifs, catholiques, ou hindouistes, ou peu importe, là, juste à dire, voilà, je vais à la discussion.
Bonsoir, merci oui, pour l'organisation de l'événement. Mon nom est Francis Dupré-Guéry, je viens du Québec en fait. Je suis aussi dans les réseaux anarchistes au Québec. Et par ailleurs, je suis aussi à l'université, je suis accessoirement athée aussi. Quelques réactions par rapport à René, par exemple, qui disait qu'il déplorait que les. États-Unis, il y avait un collectif anarchiste qui avait décidé de ne pas critiquer la région. Bon, je n'ai pas lu leur texte, bon, je ne peux pas nécessairement me prononcer spécifiquement là-dessus. Le premier camarade qui disait ne pas savoir qu'est-ce qu'était l'islamophobie, qui disait quand, si je paraphrase bien, qu'en tant qu'anarchiste, on a le droit évidemment de critiquer toutes les religions, en tant que libéral d'ailleurs aussi républicain, je pense qu'on a ce droit-là, mais qu'on peut critiquer toutes les religions. Et que là, il donnait l'exemple, donc, on avait le droit de critiquer l'URSS quand on était anarchiste, même si, en fait, on se faisait dire par d'autres qu'on jouait le jeu de la CIA ou de la droite, etc. Mais il me semble qu'il y a une différence entre la critique de l'URSS par des anarchistes, c'est-à-dire que là, il y a une concurrence par rapport au modèle. C'est que l'URSS, c'était des bolcheviks qui disaient qu'ils avaient réellement réalisé le communisme. Et quand Emma Goldman et Bergman et d'autres vont là-bas, ils disent, ben non, en fait, c'est une arnaque, c'est pas... C'est un mensonge. Je ne pense pas que le califat, pour ce que j'en sais, prétend qu'ils ont réalisé l'idéal de l'anarchie ou du communisme. Il faut que les anarchistes démasquent le fait que, en fait, c'est pas ça. Alors que l'URSS, il me semble quand même, c'est ça qui se jouait dans la critique de l'URSS. C'est pour ça que la critique anarchiste de l'URSS n'était pas la même critique que la critique par le New York Times ou le Figaro à l'époque. J'imagine que je n'étais pas abonné à l'époque. Et donc, ça m'amène à dire pour... tu t'es pas présenté, mais donc la deuxième intervention qui rappelle l'importance du contexte et que tout n'est pas tout le temps pareil, que les mots n'ont pas toujours la même signification, etc. Moi, je sais pas, peut-être que l'islamophobie, c'est pas un bon mot, qu'il faut trouver un autre mot, mais je serais quand même étonné qu'en Occident aujourd'hui, alors que les États, le Canada, les États-Unis, la France, etc., que les armées, que les services de renseignement, que les partis au pouvoir, que les gouvernements, que l'extrême droite, la droite et la gauche présentent l'islam comme une force contre qui on est en guerre depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est pas clair, mais en tout cas depuis très longtemps.
1000 ans.
Ça serait quand même une des premières fois que toute cette énergie serait déployée alors qu'il n'y aurait pas une construction de la peur de l'ennemi. Alors, si on appelle pas l'islamophobie, on peut donner un autre nom, on peut appeler ça un cendrier ou n'importe quoi, ça, le nom m'importe plus, mais il me semble qu'il y a quand même les institutions, en fait, qui ont du pouvoir, cette force de décrire l'ennemi qui est l'islam, réduit à sa plus simple expression, avec des vrais rapports de force, etc. Et là, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert que... Après ça, les anarchistes peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent critiquer l'islam s'ils veulent, mais c'est pas grave. Mais il me semble que il y a déjà 99% des institutions qui critiquent l'islam. Donc, si le monde libertaire critique aussi l'islam, ben, ça va faire une louche de plus contre l'islam, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va apporter dans le débat en France ou au Québec ou aux États-Unis de bien. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que toute critique de toute religion à tous les moments a tout le temps la même valeur. Il me semble que c'est vraiment décontextualiser la situation. Et donc, pour terminer là-dessus, et je ne vous dis pas qu'il faut faire ce qu'on fait au Québec, là. C'est pas comme si un anarchiste au Québec était prêt de renverser les biais du capitalisme, donc on n'a pas toutes les solutions, mais c'est sûr que moi, il me semble que ce que je vois au Québec, c'est que, en fait, on critique pas l'islam. Ça ne veut pas dire que dans des discussions entre nous, autour d'une table, à boire la bière ou à discuter, on n'a pas des commentaires critiques par rapport à l'islam ou à d'autres religions. Mais clairement, on ne pense pas que c'est comme très important que les anarchistes au Québec en ce moment critiquent l'islam. De toute façon, tout le monde est convaincu que l'islam, c'est des gens qui mangent les grands-mères, qui bouffent les enfants, qui, etc. Donc, si on ajoutait quelque chose, ce serait... Mais peut-être que c'est pas ça. Je pense au Québec, peut-être que c'est pas intéressant ce qui se passe chez nous. Et je vais finir avec un exemple, par rapport au judaïsme. Donc en Amérique du Nord, comme vous le savez peut-être, New York, Montréal et en Amérique latine, en fait l'anarchisme est beaucoup arrivé en fait par l'immigration juive au début du XXe siècle, qui, pour plein de raisons, qui fuyait les pogroms en Russie, etc. Et donc il y avait des libre-penseurs au Québec, à Montréal aussi. Mais en fait, les anarchistes d'origine juive, dans la migration juive, ils migraient aussi avec évidemment des juifs qui étaient religieux, et donc ils ont installé des synagogues à Montréal. Et donc dans les années 30, les anarchistes d'origine juive, ils allaient faire des actions contre les synagogues à Montréal. Ils mangeaient des saucissons devant les synagogues. Mais je pense que si un Québécois d'origine catholique dans les années 30, au nom de l'anarchisme, serait allé faire la même chose devant une synagogue juive, ça n'aurait pas eu le même sens dans les années 30 contre une synagogue. Parce que toute critique de toute religion dans tout contexte n'a pas la même valeur selon qui on est et qui on vise.
Vas-y.
Anne Leroux, alors moi je suis aussi enseignant-chercheur. Mon domaine c'est plutôt la Russie, mais disons que j'ai des engagements dans une gauche, on va dire, de mouvement plus que de parti, à la fois dans une grande solidarité internationale, notamment le CDTIM si ça dit quelque chose, et puis des engagements de proximité aussi dans la ville de banlieue où j'habite. Donc moi, notamment avec le CDTIM mais avec d'autres gens aussi, cette question du rapport de la gauche et de l'islam, il y a beaucoup de discussions depuis longtemps. C'est vrai que les premières discussions, moi j'ai très vives, j'ai un souvenir, c'était les premières affaires du foulard entre guillemets en France, et puis ensuite aussi déplacées un peu sur un autre terrain, bien sûr la guerre civile en Algérie dans les années 90. Là aussi, des ruptures militantes fortes, des discussions qui, moi, m'ont marqué, disons, dans mon histoire politique. Et puis ensuite, bien sûr, la loi de 2004, etc. Donc moi, je fais plutôt partie des gens qui étaient contre cette loi et qui continuent à l'être. Quand j'entends l'idée de... On pourrait interdire le voile à la diversité, que ouais. Je mes étudiants de voile, et les cheveux se dressent sur la tête. Mais ceci étant, je suis sensible au questionnement quand même du rapport de la gauche à l'islam politique, à ses évolutions, à ses crispations, qu'on peut sentir y compris dans les réseaux militants dans lesquels on a des débats, donc les questions évoluent, les vagues d'attentats récentes ont eu évidemment un impact, donc j'ai malheureusement pas pu écouter toute l'intervention de Jean Bianco, mais j'y suis assez sensible. Donc voilà, moi je pense qu'il faut effectivement aussi se poser la question, trouver je sais pas si c'est l'islamisme de gauche, trouver des gens avec qui mener la discussion. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'enceintes dans lesquelles, je sais pas si c'est au NPA, si c'est ailleurs, dans lesquelles cette discussion peut quand même se mener, y compris quand on essaye d'y apporter la Ligue des droits de l'homme, pourtant il était un petit peu réticent, etc. Donc je pense que c'est aussi important, parce qu'il faut passer des alliances, je dirais, émancipatrice et non discriminante, à mon avis, les plus larges possibles dans le contexte dans lequel on est, ce qui ne doit pas empêcher de poser des questions qui fâchent, parce que ne pas les poser serait aussi une forme de condescendance, je ne sais pas. Donc moi, sur la question moi, il me semble qu'il y a quand même quelque chose, ça a peut-être été abordé avant que j'arrive, dans ce cas-là, toutes les excuses, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui peut, réunir ces gens de gauche et la question quand même autour de l'islam, c'est la question de l'expérience des discriminations. Alors bien sûr, elle n'est pas réduite aux seuls musulmans, et les quartiers populaires ne sont pas réduits aux seuls musulmans, bien évidemment. Et les gens qui ne sont pas blancs ne sont pas non plus tous musulmans, enfin bon, tout ça c'est une évidence, mais je pense que quand même, et c'est pour ça que le terme d'islamophobie, pour moi, il a quand même une certaine opérationnalité pratique, je dirais. C'est pas en faire une définition idéologique. Il y a un texte de ma collègue sociologue Abdelali Ajat, il y a quelques temps, que j'ai trouvé pas mal là-dessus, qui justement disait qu'il ne fallait pas faire de nominalisme, mais trouver une définition qui permette qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle quand on parle d'islamophobie, et c'est plutôt de parler d'un certain nombre de pratiques, d'expériences, de discrimination, effectivement, au travail, dans au logement, les quartiers, etc. Et puis la désertion des quartiers populaires par vos politiques, la désertion par ce qui d'ailleurs était il y a peut-être 50 ou 60 ans des organisations de l'Action catholique ouvrière, par exemple, et autres, qui étaient aussi des sortes de courroies. Et donc là, voilà, encore, il y a un nouveau lien. Donc moi, je pense quand même que la question de... Enfin, la question pour moi de l'islamophobie, elle a une certaine réalité. Alors après, on ne va pas discuter sur le plan philosophique ou terminologique si ça a un sens de la mettre au même niveau que l'antisémitisme, et puis il y a déjà le racisme qui existe, donc pourquoi inventer un nouveau terme, etc. Moi, je pense quand même que dans la société française aujourd'hui, en tout cas, je le constate avec des proches, il y a une crispation par rapport à ce qu'est l'islam, à ce qui est supposé être islam par rapport aux musulmans, qui me paraît, qui m'effraie beaucoup. Même, et je pense est tout à fait à prendre au sérieux, de même qu'il est à prendre au sérieux aussi l'antisémitisme qui se déploie aussi ailleurs, qui se déployait traditionnellement. Donc aussi, c'est aussi à prendre au sérieux. Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est plus une petite remarque ou comme ça, expérience aussi de la ville dans laquelle je suis et de la difficulté avec. Alors, moi, je vois bien, j'entends peut-être parce que j'ai une certaine réflexivité sur ces questions, en étant moi-même. Donc j'ai eu une enfance plutôt un peu catholique, mais avec aussi une perte d'intérêt pour l'Église et ce qu'elle représentait, plutôt au nom de ce qui me semblait être justement les valeurs de gauche et d'émancipation que devait porter a priori le christianisme. Donc ça a en même temps aussi guidé mon engagement après. Mais je vois que j'ai affaire à des gens qui sont souvent extrêmement crispés sur la question de la laïcité. On va les appeler laïcards, mais en tout cas extrêmement crispés sur la question de la laïcité. Et qui, du coup, ne comprennent absolument pas ce qui se passe, et je suis très d'accord avec ce que vous disiez, Jocelyne, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe du point de vue de ce qu'il y a, de la place des croyances et de la religion dans la société aujourd'hui. Et là, juste un tout petit exemple, quelques semaines après, début janvier, je crois, après donc, les attentats de novembre, dans un certain nombre de petits cercles politiques dans lesquels je suis, dans la ville où j'habite, on essaie toujours de faire des réunions publiques sur des débats de société. Quand on est 25, on est content, on sait toujours pourquoi les gens ne viennent pas, etc. Et là, je reçois par le biais d'amis une invitation à me rendre un dimanche après-midi à une réunion qui était organisée dans la salle paroissiale par un groupe de dialogue interreligieux entre les différents. Non, ce n'était pas coexister, c'était CIEUX, ça s'appelle CIEUX. Et donc, il y avait le curé, le pasteur d'une ville à côté. Un rabbin, l'imam du coin, et donc avec deux, trois copains, on se dit, allez, on va aller voir ce que c'est un dimanche après-midi. On arrive, la salle était absolument noire de monde, il y avait 150 personnes dans la salle, on prépare, etc. Et cette expérience-là que j'ai ensuite racontée à d'autres gens, ils m'ont regardé avec des yeux ronds, me disant, mais comment est-ce que c'est possible? Mais pourquoi? Et ce qui était très intéressant dans cette réunion, c'est qu'à un moment donné, il y avait aussi une représentante de la mairie qui parlait des comités de quartier, de la participation politique, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un moment des discussions en petits groupes et que les gens, il y avait vraiment des gens de toutes religions, et les gens se sont mis à dire qu'en fait, eux, ils aimeraient bien pouvoir parler de religion dans les comités de quartier. Et là, ça paraissait complètement, là aussi, les gens de la mairie ouvraient évidemment les grands yeux, parce que, voilà, le religieux doit rester quelque part où il est. Et donc, voilà, je voulais juste relater ça, parce que ça m'a fait quand même assez... assez réfléchir, disons, sur cette question de la, je pense, la manière dont, question de foi ou pas, qu'on pense que la foi est première, la croyance est première ou pas, en tout cas, le religieux a une manière de s'articuler aux politiques aujourd'hui qu'il faut absolument comprendre.
Alors, j'ai une intervention encore à noter. Je propose, vu l'heure et l'heure de fin qui était prévue au départ, que pendant cette dernière intervention, les personnes qui voudraient prendre la parole s'inscrivent et que je clôt la liste après ça. Ça sera les dernières interventions, ensuite on reviendra à la table et après on voit ce qu'on fait, mais voilà. Donc, vas-y.
Merci, donc moi je suis Patrick Abbé, je suis anarchiste et je suis un apostat du christianisme. J'ai servi la messe en latin quand j'étais petit. Je pense que je croyais à rien de tout ça, mais je devais être bon élève, donc je faisais ce qu'on disait faire, jusqu'au jour où j'ai arrêté de le faire. Bon, c'est un ensemble de débats très intéressants. Il me semble qu'on zappe malgré tout sur trois sujets qui me semblent très différents. Un, c'est en tant qu'anarchiste, donc je suis anarchiste à la fois croyant d'une sorte de foi là-dedans et j'essaye de la justifier en cultivant la théorie, et pratiquant. Donc là, je me suis fait gazer pendant 3 ou 4 heures, il y a 3 jours. Là. Donc, ça, c'est la. il semble qu'on a besoin de proposer quelque chose à côté de la religion. Donc là, je suis Philippe dans cette histoire de spiritualité. Je déteste le nom de spiritualité, surtout quand je vois le rayon spiritualité dans la librairie. Ça me fend le cœur. Alors, en même temps, je suis un mystique contrarié. J'ai une sorte de quête de transcendance qui ne se résout pas. Et d'ailleurs, j'ai parcouru les 200 km des chemins de Compostelle, non pas en tant que religieux, mais en tant que pratique philosophique. Oui, un peu de mal avec l'hébergement de temps en temps. Je reviendrai à la suite. Donc il y a ce thème-là, il y a la religion et puis il y a l'islam. Sur la religion, je pense que c'est quelque chose d'absolument horrible. Les religieux, en particulier le clergé, c'est un business vraiment énorme, qui gagne beaucoup d'argent, s'enrichit sur notre dos, veulent contrôler nos corps. La loi, c'est quelque chose de fondamental, en particulier dans les monothéismes. C'est la loi. On vous dit comment vous habiller. Par exemple, les chrétiens, il faut que les femmes cachent leur sein et que les hommes cachent leur sexe. Donc c'est absolument intolérable qu'on impose ça. Alors les autres veulent cacher les cheveux. D'ailleurs, j'avais une idée de manifestation quand tout ça a démarré avec le foulard, où on aurait combiné les interdits, les tabous sur le corps. Donc, quelqu'un de nu avec juste les cheveux couverts, vous imaginez. Donc, les religieux veulent contrôler nos corps, ils veulent contrôler nos vies, nous dire si on doit vivre en monogamie, en polygamie, ce qu'on doit manger, pas manger, quel jour. Donc, ce sont vraiment des structures d'aliénation. Et en ce sens, à mon avis, elles doivent être combattues. Pas nécessairement de façon fanatique, bien sûr, de façon rationnelle. Sachant qu'après, les croyances de chacun sont personnelles et sont absolument respectables en tant que ses propres croyances. Moi, j'ai des amis musulmans, chrétiens, j'en connais plus hier, c'est ça quasiment disparu. Donc, il faut faire la différence entre les croyances individuelles et les personnes qu'on respecte et qu'on côtoie, et les religions en tant que structures d'oppression, qui sont vraiment des structures d'oppression. Sur l'islam, il me semble qu'on parle beaucoup et de mon point de vue trop d'islam. Alors effectivement, on se fait un peu mitrailler, un peu bombarder, si on compte le nombre de morts, c'est quand même pas catastrophique par rapport au reste. Et que donc il y a une sorte de fixation là-dessus. Alors j'ai pas une réflexion très très profonde, je m'en excuse, mais le problème c'est pas tellement l'islam, le problème de mon avis c'est plutôt l'orthodoxie. À la lettre des textes. Et ma première relation avec ça, ça avait été un jour en regardant à la télé, c'était en Israël, dans les toits occupés, et un juif religieux qui hurlait avec des yeux de fou en disant « Mais ça, c'est à moi, c'est Dieu qui me l'a donné. » Et là, je me suis dit « Putain, mais jamais on va résoudre ce problème-là, quoi, c'est un ressemblant. » Donc ça, c'était, je ne sais plus, il y a 10-15 ans, c'était mon premier contact avec vraiment cet intégrisme extrêmement puissant et qui fait qu'on se sent le droit d'exproprier tout le monde, de tuer tout le monde, parce que Dieu vous a donné ce droit-là. Donc la religion se prête, à mon avis, à ces extrémismes-là. Dans ma famille, j'ai quelques chrétiens intégristes assez soignés aussi. Je pense qu'ils n'ont pas encore tout à fait. Et donc il y a l'islam pour y venir. Donc tout le monde parle sans le connaître. Alors moi, j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée de lire le Coran. Malgré tout, il me semble que tout le monde parle de ce truc-là, que très peu de personnes l'ont lu, et qu'il ne faut pas en parler si on n'a pas lu. Je cherche une bonne traduction du Coran en français. Malheureusement, je ne connais pas l'arabe, et je prévois pas de l'apprendre. C'est juste pas possible. Et donc, pour ma culture personnelle, pour comprendre de me convertir, je pense. Et il me semble, pour revenir là-dessus, que cette histoire d'islamisme, c'est quand même un gros coup de peinture sur le racisme contre les Maghrébins et les Arabes. Et c'est que ceux qui étaient racistes avant, qui faisaient des ratonnades, c'est ceux qui sont maintenant anti-islamistes. Ils n'ont jamais rien fait sur l'islam, ils ne connaissent rien. C'est juste que c'est moche, que c'est des gens qui ne veulent pas s'intégrer, etc. etc. Donc, il faut s'intéresser à l'aspect religieux qui existe, Je suis d'accord avec ce que vous disiez, on ne peut pas le nier, puisque les jeunesses se revendiquent, ou la fille se revendique, bien sûr, on va dire, il n'a pas dit. Malgré tout, si on regarde la réaction de la population vis-à-vis de ça, il y a ce racisme qui a trouvé de nouveaux habits, et peut-être qui se liait au fait que cette communauté-là, qui était invisible, peut-être parce qu'elle cherchait à s'intégrer, à un moment a dit, bah, moi finalement j'ai une culture, une religion, et c'est dans cette culture que j'ai envie de vivre parce que j'y trouve une identité qui me convient. Donc ça c'est sur cette partie-là, et je ne suis pas à l'aise sur développer comme on le fait, le côté vraiment religieux, il faut le faire, mais ça me semble fondamentalement un coup de peinture sur un truc qui est vraiment du racisme. Et pour finir, le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer. On n'a pas parlé des francs-maçons, mais malgré tout, je pense que c'est une tentative de proposer une spiritualité, voire une sorte de religion, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plus chez les francs-maçons, mais avec tout le fatras des religions, des rituels, des soucis, un côté gadget, toutes ces choses-là. Il y a une proposition justement à une sorte de spiritualité non religieuse. La ressource que j'ai envie de convoquer, c'est pas tellement ça. C'est la philosophie. Au sens où en particulier Pierre Hadot l'a réexhumée avant de mourir. Dans le sens où la philosophie, c'était un mode de vie dans la Grèce antique. Et donc c'était de construire une relation au monde dans laquelle on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire. C'est une question totalement inintéressante. Donc les religions nous demandent des réponses toutes faites. Mais donc qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire et comment est-ce qu'on peut bien y vivre, hein, la triple quête des philosophes, c'est le bien, le beau et le vrai. Donc tu as parlé de la beauté tout à l'heure, de l'amitié, donc on retrouve ces choses-là. Et moi, là où j'ai envie de puiser, et je pense qu'il y a un vrai travail, que c'est compliqué, que ça prend du temps, c'est dans ces ressources-là, parce que ils ont proposé quelque chose. Il y a eu un certain nombre d'écoles qui ont émergé, chacune avec ses distinctions, qui correspondent à mon avis à des psychologies particulières, l'ascète, les stoïciens, l'épicurien, etc. Et donc, dans mon souvenir, ils ne se sont pas entretués entre eux comme l'ont fait toutes les religions sans exception, monothéisme, polythéisme, etc. Donc voilà mon modeste en termes de contribution.
Ok. Je ne sais pas comment on peut s'organiser là, qui veut prendre la parole en premier.
Réaction de chacun.
Ouais, c'est ça. Un petit tour chacun, rapidement.
C'est
rapide.
Ce même ordre.
Moi, j'aurais pas beaucoup de choses, parce que j'ai trouvé que c'était assez passionnant, beaucoup d'interventions, hein, et d'éclairage, etc. Même les interventions avec lesquelles je suis le moins d'accord avec le camarade militant anarchiste et celle de René, parce qu'elles expriment aussi justement un des problèmes du milieu anarchiste aujourd'hui. Et, disons, sa marginalisation, ça a été dit par Paul. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une forme de dénégation par rapport à un. Évidemment, une fois qu'on dit que la laïcité est une, on ne comprend pas que ça a toujours été controversé. Même la loi de 1905 est très controversée. Je parlais du conflit entre Jaurès qui avait la position qu'on appellerait laïcité ouverte aujourd'hui, mais c'est vrai, dès la loi de 1905, des gens disent qu'il faut interdire les signes religieux dans l'espace public. Bon, donc ce n'est pas la voie qui est choisie, et donc il y a bien, c'est bien une notion, comme toute notion qui est controversée. C'est très étrange qu'un anarchiste puisse dire qu'il y a des notions qui sont uniques et qui ne sont pas controversées, qu'il n'y a pas de pluralité ou de conflit autour d'une notion. C'est même, on pourrait dire, une pensée anti-anarchiste. Alors pourquoi c'est une pensée anti-anarchiste? Parce que moi, en tant qu'anarchiste néophyte, comme l'a rappelé René depuis 3 ans, ce que j'ai découvert, c'est que dans le milieu anarchiste, il y a des formes dogmatiques qui sont très proches de celles que j'ai rencontrées dans des religions, ou dans le trotskisme, ou dans d'autres formes politiques que j'ai traversées. Et que, évidemment, en néophyte, j'avais l'impression qu'il y avait des ressources dans le milieu anarchiste qui permettaient d'être, disons, plus à l'écart ou plus protégé de ces formes de dogmatisme, et ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Et donc, au bout de 3 ans, disons, si je suis devenu moins néophyte, c'est, disons, mon scepticisme sur un antidogmatisme de principe qui serait celui des milieux anarchistes et qui ressemble beaucoup. Disons, en 40 ans de militantisme, qui a commencé au Parti Socialiste et qui a fait beaucoup de choses en France, ce qui est étonnant pour moi, depuis 3 ans à la Fédération anarchiste, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui se ressemblent dans les organisations que j'ai traversées que de choses dissemblantes. Et donc il y a un problème du fonctionnement des organisations, c'est beaucoup plus proche qu'on croit. Et ce n'est pas une question de contenu des idéologies ou des programmes, etc. C'est dans les modes de fonctionnement, dans les rapports entre les personnes, dans le rapport au pouvoir, que ce pouvoir soit en dénégation ou pas. Par exemple, dans le milieu anarchiste, il n'y a pas de chef. Mais tout le monde sait qui sont les chefs en même temps. Donc évidemment, c'est sur le mode de la dénégation, mais en fait, en même temps, tout le monde le sait que ça existe, etc. Bon, c'est très proche. En même temps, évidemment, il y a des différences. Hein. Il y a des différences dans le contenu, dans les ressources, etc. Mais moi, ce qui me frappe, hein, c'est quand même la très grande proximité, aussi bien de ce que j'ai vécu au Parti Socialiste, à la LCR, au Mouvement des Citoyens, chez les Verts, au NPA et à la Fédération Anarchiste. Et donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, une matière à réflexion, parce qu'évidemment, la vision dogmatique des choses pense que, évidemment, chaque expérience est complètement radicalement différente et évidemment se construit comme une sorte d'antinomie par rapport à cette expérience. Ça n'est sans doute pas lié qu'aux organisations anarchistes et aux autres groupes. C'est en fait l'effet de la société telle qu'elle est sur tous les groupes, hein, bon, et donc y compris les anarchistes. Bon, voilà. Et donc ça, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est qu'il est très difficile, disons depuis les premières affaires du voile, de ne pas voir qu'il y a quelque chose qui est devenu obsessionnel dans la diabolisation des musulmans et de l'islam. Et donc c'est très difficile de ne pas en faire un élément qui est quand même, en France, et dans le monde après le 11 septembre, mais en France ça a débuté avant, donc c'est un élément important, hein. Ça a débuté avant. Et il y a dans les milieux anarchistes, comme une partie des autres courants de gauche, une dénégation par rapport à ça. Bon. De ne pas voir que... Alors évidemment, comme tout mot, islamophobie, c'est un mot qui peut avoir plusieurs usages, comme le mot antisémitisme. Il y a des gens qui utilisent le mot antisémitisme aujourd'hui pour justifier la politique des gouvernements successifs israéliens. Et donc dès qu'on est critique, on est taxé d'antisémite. Donc il y a des usages islamistes de islamophobie, donc il y a des usages différents de ces mots. Mais il est très difficile de ne pas voir qu'il n'y a pas à la fois une essentialisation de l'islam comme un tout négatif, qui appellerait des formes discriminatoires, et que c'est ça qu'on appelle islamophobie. C'est relativement simple, disons, à saisir, et ce n'est pas un problème de critique des religions. Bon. Enfin, la spiritualité, je pense que contrairement à ce qui a été dit de très intéressant sur la différence des contextes, c'est que je ne pense pas que, surtout à partir de la seule expérience surréaliste, que le mot pose un problème en France. Ce que j'ai essayé de faire à travers, dans mon livre au début, à travers les chansons, montre que la culture ordinaire est irriguée de questions spirituelles autour du sens et de la valeur de l'existence, et que ça n'est pas raccordé à des questions religieuses, et que ce plan n'est pas vraiment pris en compte, disons, et que c'est un élément quand même important de ce qui se passe, et que par rapport au capitalisme qui a une forme de dessèchement par rapport à ce rapport au sens et aux valeurs, en imposant la valeur unique de l'argent, il devrait y avoir, non pas comme élément principal, comme, etc., mais il devrait y avoir une composante de la réponse qui traite ces questions. Et que ce que j'ai essayé de dire, c'est que la gauche n'arrive pas, ou les gauches et les libertins n'arrivent pas à traiter ces questions. Bon. Et donc voilà, c'est pour plaider sur une composante, disons, spirituelle, au sens de quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire qu'une bonne partie des problèmes ou des questions qu'on se pose, des éléments de solution, sont déjà là dans la vie ordinaire. Le grand problème des militants, c'est qu'ils pensent que les gens qui sont dans la vie ordinaire sont aliénés, et que donc il faut leur montrer le bon chemin. Et donc, en fait, d'une certaine façon, il faut se couper de la vie ordinaire pour faire de la politique. Or, une bonne partie du matériau pour faire la politique, il est devant nous, là. Bon. Et c'est pour ça que... je terminerai là-dessus, parce que c'est ce que j'avais indiqué à la suite d'un séminaire à la Sorbonne sur Wittgenstein, c'est que plutôt Souchon que Lordon. C'est-à-dire, il vaut mieux aller puiser dans la culture populaire que la énième figure du philosophe roi qui nous explique comment il faut vivre. Voilà.
Merci. Moi, je voudrais d'abord vous remercier tous pour vos questions, réactions, que j'ai trouvées vraiment très, très riches et très stimulantes. Enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté aussi d'avoir vos témoignages personnels et en particulier sur l'anarchisme. Et, donc, je ne pourrais pas répondre à tout parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points qui ont été... abordés, mais donc un petit peu en vrac, je voudrais réagir sur des choses qui ont été dites ou pas dites. Il y a un point autour duquel on a un peu tourné, il me semble, dans la discussion et qui est crucial, qu'on n'a pas amené vraiment par nos interventions, c'est la question de l'universel. Ça, je pense que c'est un point absolument essentiel. La question de l'universel, de quel universel nous voulons aujourd'hui, parce que c'est autour de ça qu'on tourne, et tout le débat sur la laïcité est une manière de poser ou reposer l'inadéquation aujourd'hui d'un universel des Lumières surplombant. Donc je pense que s'il y a un point sur lequel on doit travailler, c'est sur notre conception de l'universel, et d'un universel, à mon sens, ancré, historicisé, diversitaire, et en même temps la question d'un retour à l'internationalisme, parce que ça c'est quelque chose qui est à mon sens complètement en déclin ou en régression, les seuls internationalismes vivants vraiment à l'heure actuelle, me semble-t-il, c'est beaucoup les internationalismes musulmans, justement. Les expériences des forums sociaux mondiaux, etc., ne prennent pas, enfin, pour ce que j'en observe en tout cas, et deux expériences récentes en Tunisie, 2013-2015, c'est très beau, très généreux, c'est des très beaux moments à vivre, mais ça ne prend pas. Un autre point, on a évoqué la régression de la religion, la régression de la foi réelle, effective. C'est vrai, mais en même temps, jamais la religion n'a été aussi importante dans le débat public. C'est-à-dire que la religion régresse peut-être comme foi, en tout cas en France, mais elle prend une valeur emblématique et elle s'assimile à la question de la culture. Alors ça, c'est un des effets peut-être de Huntington, mais en tout cas, on se réfère aujourd'hui à la religion comme étant une sorte de charte fondatrice, finalement, des identités nationales et d'identités européennes. Pensez au débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Donc c'est pas seulement la question du rapport à Dieu, ça devient aussi un élément d'identité nationale, évidemment délétère, à mon sens. Du coup, ça pose aussi la question de la diabolisation de l'islam. Moi, je pense, j'ai pas le temps de développer ça, mais il y a un élément qui est très récent, qui nous surprend encore, enfin, qui est sans doute postérieur à la chute du communisme. Il y a une théorie qui est bien connue, mais je crois qu'elle est assez fondée. C'est qu'en 89, comme il n'y a plus d'éléments d'opposition structurants entre communisme et capitalisme, comme on est dans un modèle unique, du coup il faut une opposition constructive, fondatrice, qui est l'opposition à l'islam, qui est structurante, et comme par hasard, au même moment, c'est la réunification de l'Europe, enfin l'élargissement de l'Europe, et donc on retrouve une sorte d'identité chrétienne sous-jacente contre l'islam. Donc il y a ce point, semble-t-il, qui peut faire sens. Il y a aussi une haine de l'islam qui, en fait, quoi qu'on en pense, une haine à fondement théologique. Je crois que, y compris dans le discours laïque, il y a beaucoup d'éléments qui reprennent des éléments de la polémique religieuse anti-musulmane, de l'apologétique en tout cas, par exemple autour de la question de la polygamie, autour de la question du prophète lubrique, enfin il y a des choses, quand on y réfléchit, qui viennent de très loin. Il y a aussi une question, je pense, coloniale qu'on n'a pas abordée, ou que j'ai évoquée un peu rapidement à propos de la guerre d'Algérie, mais je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire que c'est une image coloniale de l'islam qui refait surface aujourd'hui et qu'on a du mal à évacuer, mais j'en parle trop vite ici. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça islamophobie? Moi, c'est pas un terme que j'aimais. Je l'ai même publié une ou deux fois. Je n'aimais pas ce terme parce que dans islamophobie, il y a d'abord, ça a été calqué sur judéophobie en grande partie après Taguieff, mais c'est aussi parce qu'il y a phobie et donc il y a le registre de l'affect. J'aime, j'aime pas. Et moi, il me semble que ce qui est important, c'est le droit. C'est de se caler sur du droit, des droits à l'égalité, le refus de la discrimination. C'est pas la question d'aimer. On s'en fout qu'on aime l'islam ou pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir les mêmes droits. C'est ma position en tout cas. Mais maintenant que c'est un terme qui s'est employé dans les combats politiques, dans les luttes politiques, maintenant que c'est un terme structurant, je pense qu'il serait malhonnête de ne pas reconnaître cette réalité et de ne pas se caler dessus. Et effectivement, il ne s'agit pas de faire du nominalisme. Quant à critiquer les religions, ça c'est encore une grosse question. On critique quoi? On critique quoi dans l'islam? On critique quel aspect? Exactement. On peut critiquer un aspect d'une religion, mais critiquer une religion en soi, on peut le faire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors après, j'ai pas dit qu'il fallait pas lire le Coran. J'ai dit qu'il fallait pas lire le Coran pour comprendre l'islam d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous lisez le Coran, eh ben vous connaîtrez le Coran. Vous aurez un lien avec l'islam d'aujourd'hui, mais vous ne connaîtrez pas les musulmans d'aujourd'hui. Je conseillerais la traduction de Denise Masson, que je trouve belle. Que je trouve très belle, qui fait souvent référence, mais s'il s'agit de beauté, je trouve aussi qu'entendre des psalmodies, ben, c'est beau. On n'est pas forcé d'aimer l'islam, on n'est pas forcé d'être sensible à l'islam, mais on peut être sensible à la musique, par exemple, d'un appel à la prière ou d'un appel ou d'une récitation coranique. On n'est pas obligé d'aimer les religions, effectivement. Les religions sont des institutions. Toute institution a une force oppressive, une force d'exploitation, mais après tout, pas plus que l'entreprise. Donc il n'y a pas lieu de diaboliser les religions plus que l'entreprise. Voilà, bon, c'est grosso modo ce que je pourrais dire sans pouvoir tout dire. Merci.
Alors, on va bientôt être chassé, donc il faut aller vite. Mais moi aussi, je suis ravi de cette soirée et puis d'entendre les... non seulement les témoignages, mais les réflexions qui étaient très très passionnantes de tout point de vue. Pour aller vite, moi je pense que vous avez abordé la question, d'ailleurs à l'instant, Jocelyne aussi, la question de l'internationalisme, qui est effectivement centrale. Et avec cette espèce de régression qui est tout le temps la nôtre, mais de façon compulsive et presque c'est comme un réflexe, il a été dit à plusieurs fois, dans un contexte français, je ne pense pas qu'il faille arracher le mot spiritualité, dans un contexte français, c'est du racisme, dans un contexte français, il faut pouvoir s'allier à, sinon on passe à côté, etc. Le problème, c'est qu'en fait, la religion, bien sûr, elle a des contextes nationaux, elle a des contextes, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si, par exemple, non pas l'islam, mais une forme d'islamisme, etc., est la seule puissance qui est capable d'humilier le vieil internationalisme de la gauche en faisant ce qu'elle fait, c'est-à-dire en défiant le capitalisme de façon sanglante, et en aimantant toute une jeunesse à travers la Terre, c'est que justement, c'est une puissance internationaliste, et que ça pose la question universelle. Par exemple, Balibar dit très très bien, qui est un marxiste aussi, dit très bien qu'il faut arrêter de considérer tout ça comme un particularisme face à un universalisme qui serait colonial, etc. Le djihadisme est un universalisme très puissant. Donc, et il a une capacité d'aimantation qui est celle d'un universalisme très puissant. Donc quand on est du point de vue internationaliste, justement, on devrait arrêter, par exemple, de penser que, parce que c'est très compliqué effectivement de ne pas tomber dans la haine anti-musulmane, dans les discriminations, etc., et de ne pas tomber dans le... Mais vous voyez la question, c'est que par exemple vous avez dit, moi on doit pouvoir faire des choses contradictoires, à la fois critiquer les islamistes qui attaquent cette comédienne, et en même temps être contre la loi sur le voile. Mais pour moi c'est pas du tout contradictoire. Je trouve pas ça du tout contradictoire. Je pense qu'on peut tout à fait défendre, enfin être contre telle ou telle volonté d'éradiquer tel ou tel signe religieux, notamment, voilà, et dire que les islamistes, ce qu'ils font, c'est pas cool. Je veux dire, que vous ayez à dire c'est pas contradictoire, c'est déjà un indice que c'est pas du tout un reproche, c'est juste qu'on en est là, quoi. Donc moi, je pense que c'est pas du tout contradictoire. Par contre, ce qui est un peu embêtant quand même, c'est qu'on est tous pris dans ce truc permanent qui est de dire la religion, l'islam en France, c'est, moi j'ai été élevé dans un milieu où la question de la guerre d'Algérie était centrale, où j'ai offert la question d'Henri Alleg à 40 personnes dans ma vie, je suis dans cette mémoire-là permanente, et pour moi, évidemment, l'islam, c'est la religion des immigrés, donc des gens discriminés, stigmatisés, etc. Il faut voir que ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça. Si on se prend à l'échelle internationale, c'est pas que ça. Quand vous dites l'islamophobie ou disons, la critique de l'islam et l'islamisme, c'est un coup de peinture sur le racisme anti-arabe, et bien allez dire ça justement à cette jeune femme qui s'est pris du vitriol,
en France,
etc.
En France,
très bien. Mais sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de en France, en France. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on est internationaliste, on doit pouvoir tenir les deux. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tout est pris là-dedans. C'est-à-dire que tout est pris là-dedans. Il faut arriver à la fois à dire oui, attention là, ce qui se cache dans ton discours, c'est du racisme anti-arabe de base, et tu te sers de ta critique de l'islamisme ou de l'islam pour le maquiller, très bien. Mais il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a effectivement un mouvement mondial de. On dit qu'il y a une crispation sur l'islam. Mais qu'est-ce que vous allez dire à Rachid Benzine, à tous ces intellectuels musulmans que je cite, qui eux disent que le monde musulman est pris dans une guerre civile mondiale, que c'est extrêmement violent, qu'en plus c'est très difficile à topographier, puisqu'effectivement, moi-même j'ai essayé de faire tout un truc pour ne pas me faire attraper par les islamophobes et tout, donc je fais tout un chapitre pour dire attention, c'est pas... Donc justement, je prends toutes les distinctions entre spirituel, pas spirituel, etc. Mais en fait, ça marche jamais, c'est un gros problème. Donc en fait, on est toujours pris dans le truc, c'est hyper compliqué. Et donc Rachid Benzine, tous ces gens qui se battent sur ce front interne à l'islam mondial pour essayer de soustraire leur foi à ceux qui veulent leur faire une grimace sanglante, vous allez leur dire non mais la critique de l'islam, vous savez c'est un habit pour masquer le racisme, etc. Mais le problème c'est que c'est gigantesque, c'est mondial, et que vous lisez le bouquin de Christian Jambet sur Mollah Sadra au XVIIe siècle, vous voyez qu'il est déjà en train de critiquer les gens de l'aveuglement qui veulent réduire l'islam à justement une grimace sanglante. Ça date pas de la CIA, c'est pas la CIA qui a inventé la guerre entre les chiites et les chiites, etc. Bien que nous autres lecteurs du monde diplomatique avons tendance à le penser. Mais la question, c'est que ça n'est pas ça. Donc, il faut. Ça nous rassure, il faut faire attention à ce qui nous rassure. Il faut savoir que, à l'hasard, l'université à l'hasard, 200 000 étudiants, plus haute instance d'autorité dans l'islam sunnite, des grands érudits, hein. Il faut savoir qu'il y a dans tous ces mouvements, pas seulement à l'hasard, dans le djihadisme, des gens très savants. Il y avait ce grand débat entre Finkielkraut et Baudelot dans les années 80 pour savoir si le niveau monte ou le niveau baisse à l'école. Chez les djihadistes, il faut rassurer Finkielkraut, il faut le rassurer, le niveau monte en permanence. Ils sont très forts, en fait ils sont très forts. Leur style, tous les gens qui bossent sur leurs textes dans toutes les langues disent que leur style de plus en plus beau, vous aimez la beauté, de plus en plus beau. Ils se réclament en permanence des poètes d'ailleurs, de savants, etc., d'érudition. Et quand un militant les rejoint, il dit « c'est ce militant qui aspire à l'érudition ». C'est assez beau quand même. Donc, il faut voir ça. Le niveau monte, c'est mondial, et chez des gens qui ne sont pas du tout des djihadistes, à l'hasard, 200 000 étudiants, eh bien on leur a demandé, beaucoup de musulmans leur ont demandé de, alors faut pas les appeler modérés, on sait jamais, voilà, mais des gens qui ne se résolvent pas à voir le destin de leur religion devenir ça, enfin, ils ont dit « est-ce que vous pourriez condamner l'État islamique, messieurs, de l'université à l'hasard ?» Eh bien, ils ont fini par le condamner à la fin de l'année 2014, là je cite Rachid Benzine et d'autres, au seul motif que les gens de l'État islamique avaient brûlé vif un pilote et que ça ne faisait pas partie de l'arsenal pénal islamique. C'est-à-dire que c'est un problème. Si vous pensez que c'est pas un problème et que c'est juste un fauné du racisme en France, ben, vous vous gourrez, je pense, vous vous gourrez. Alors en France, effectivement, ça peut être ça et c'est peut-être souvent ça. Mais attention, la France est ouverte sur le monde. La France est ouverte sur le monde, c'est pour ça que je ne crois pas à tous ces machins de printemps républicain, de je sais pas quoi. Tous les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir faire face à ce qui se passe d'un point de vue national, ils se plantent en fait. C'est-à-dire que sous ça, la force d'une religion, c'est aussi que c'est transnational. C'est transnational. Et donc, le problème, il est là. Et donc, le grand problème, c'est cette capacité de mobilisation à laquelle faisait allusion notre ami de la CDTIM. C'est-à-dire, quand vous dites, nous on a 25 personnes à chaque fois, on s'aperçoit que dans la réunion... Oui, bon, enfin bon, on a 25 personnes, nous autres. Voilà. Voilà. On n'a pas grand monde et on s'aperçoit que les gens qui font. Ils ont une salle pleine. Alors, je ne sais pas si Corpus devrait être exclu de la perversion anarchiste. Moi, je pense que vous devriez l'être pour citer tellement de sondages en permanence. je blague. Mais ça n'a. Je pense pas du tout qu'il faut exclure personne, et surtout pas les gens de la CGT du livre. Mais en tout cas, le truc, c'est que. C'est intéressant, mais c'est pas très important. Parce que vous voyez, vous lisez les livres de Denis Crouzet, qui est un grand historien des guerres de religion, qui d'ailleurs a ressenti le besoin de publier un livre là, sur ce qui se passe, parce qu'il pense qu'il y a des choses à raconter. Et c'est très intéressant. Et il dit, bah, les gardes de religion, ils étaient pas les mecs qui, ils étaient pas majoritaires. Hein. Il suffit d'un tout petit groupe, il le rappelle très bien, il suffit d'un petit groupe de gens extrêmement motivés et habités par un truc qu'on appelle comme on veut la foi, la croyance, etc., mais qui sont dans cet élan et qui pensent que plus on va tuer les mécréants, les infidèles, etc., plus on va hâter l'avènement du royaume de Dieu, qu'il faut aller vraiment vite et que c'est très très urgent. Bah, les gens comme ça, ils peuvent faire beaucoup de mal assez vite sans être majoritaires. Donc la question centrale, c'est cette question de la capacité de mobilisation. C'est-à-dire que moi, si je parle de l'Algérie, de l'Iran et tout, c'est pas du tout pour dire que tout est pareil, que c'est les mêmes idées, etc. Daniel Ben Saïd, que vous avez très bien cité sur la question de la discordance des temps, il revient sur l'expérience iranienne de la 4e internationale, il revient sur les erreurs qui ont été commises, sur le fait qu'ils ont cru pouvoir soutenir l'imam Slime, comme il l'appelait à ce moment-là. Et le truc, c'est que ce que montrent tous ces épisodes pour moi, c'est justement, alors ça n'a rien à voir et ça a tout à voir, c'est qu'à chaque fois, pendant la guerre d'Algérie, ce que montrait bien Fanny Colonna, par exemple, une des rares femmes, ça n'est que, c'est toujours des femmes qui travaillent là-dessus, une des rares femmes qui a travaillé sur le nationalisme du FLN et la question islamique, ce que montre très bien Foucault sur l'Iran, etc., c'est qu'à chaque fois, il y a d'autres gens. L'Iran, la question, c'est que la seule chose qui vraiment mobilise à un moment donné, c'est la religion qui balaye tout le reste. Foucault, il arrive, il se balade, il dit aux gens, que voulez-vous, que voulez-vous. Il va voir les étudiants, les ouvriers, il dit, que voulez-vous. Il se contente de dire juste, que voulez-vous. C'est assez beau d'ailleurs. Et les gens disent, 9 fois sur 10, à son grand étonnement, bah nous c'est très simple ce qu'on veut, hein. On veut un gouvernement islamique. C'est ça qu'on veut, franchement, on veut ça. Alors il voit ça, il se dit, ah c'est marrant, il se passe un truc et tout, que je ne m'attendais pas. Et tout d'un coup, il constate cette chose toute bête, que tous les gens, parce qu'il y en avait des marxistes, des socialistes, vous savez très bien, en Iran il y avait plein de gens, ils étaient très forts, très forts. J'en ai parlé récemment avec une chercheuse iranienne, on était d'accord là-dessus. Ils étaient très forts, il y avait aussi des gens qui se réclamaient de la démocratie bourgeoise, des droits de l'homme, etc. Et Foucault voit juste que tous ces gens-là sont balayés. Balayés, ou alors ils sont obligés de se rallier aux militants qui se réclament, eux, du Messie et de sa venue vraiment rapide pour faire les choses comme il faut. Et il voit, il constate juste ça. La question, elle est là, c'est-à-dire la question politique qui se pose à nouveau aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez, les uns et les autres, je ne sais même pas de quelles que soient les traditions dont vous vous réclamez, qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, le rapport de force est suffisant pour ne pas revivre ça. Et c'est ça que Gilbert Achelard dit, vous dites, c'est une génération dépassée. Peut-être, mais lui, il ne dit pas qu'il a raison sur le présent. Il dit juste, oh là là, il nous est arrivé quelques trucs, je vais vous raconter. Hein? On a cru qu'on pourrait, puis hop, on s'est fait balayer, et on est en sang au fond du caniveau, nous autres, la gauche, qui se réclament de l'émancipation, etc. Ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut arriver à tenir à la fois le truc de dire, nous nous battons contre les discriminations, nous nous battons contre ceux qui veulent faire de la critique, de soi-disant l'islam et tout, un truc de reconduite du racisme, tout ça, ce que vous dites très bien, et en même temps, il ne faut pas se rassurer en se disant qu'il ne se passe rien à l'échelle mondiale. Etienne Balibar, à nouveau, a dit, au lendemain des attentats de janvier, Etienne Balibar, qui est un marxiste, qui est contre les lois sur le voile, tout ce que vous voulez, il a dit, notre sort repose entre les mains des musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vachement intéressant. C'est parce que c'est en fait, à la limite, on s'en fout de ce que pensent les... La question, c'est ce qui va se passer dans ce front interne gigantesque et mondial, dont même les gens qui veulent absolument jamais parler sont obligés de parler aujourd'hui, les sunnites, les chiites, machin, parce que c'est omniprésent et c'est partout. Vous dites en termes de mort, c'est pas grand-chose, etc. Bah, allez demander aux Syriens. Mais en tout cas, la question, elle est là, elle est là. Et quand vous avez dit, j'ai trouvé l'anecdote géniale, notre camarade québécois, je sais pas où il est là. C'est super cette anecdote des juifs qui vont devant les synagogues et qui sont là, les juifs anarchistes qui vont, etc. La question, elle est là, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de tous les musulmans, qui, eux, ne disent pas qu'il n'y a pas de problème, voilà, ils disent pas qu'il n'y a pas de problème. Ils savent très bien qu'il se passe un truc très 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 violent et très très fort au sein du monde musulman à l'échelle mondiale. Il se passe quelque chose. Eux ne disent pas, non, tout ça, c'est des petits discours de merde à Paris pour se rassurer, pour reconduire le discours postcolonial, etc. Ce que c'est aussi, évidemment, en partie. Ils disent pas ça. Eh bien, effectivement, ces gens-là, il faut les écouter, il faut peut-être les soutenir, et il faut prendre au sérieux leur discours sur le fait que, oui, ils essayent de soustraire leur tradition, leur foi, etc. à ce truc. Et ça, c'est mondial. C'est mondial. Donc, la question de l'internationalisme, elle est centrale pour ne pas se dire juste, moi, petit militant ou grand militant libertaire ou commissaire en France, bah, je fais avec ce qu'il y a, je vois qu'en fait, il se passe ça, l'islam, c'est super, c'est émancipateur, parce qu'en fait, les gens qui sont discriminés souvent, c'est la formule de Marx, la religion, c'est le soupir de la créature opprimée, donc fatalement, tout religieux est une créature opprimée. Mais en fait, il se trouve que le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. ne sont pas totalement des puissances opprimées. Ce sont des puissances qui oppriment, qui sont oppressantes, qui sont très dures, et qui ont beaucoup de pouvoir, et qui ont beaucoup d'argent. Et donc, il faut faire attention. Il y a cette guerre civile mondiale dans tous ces pays-là, enfin dans ce monde-là, ce n'est pas des pays justement. Et à un moment donné, il faut arriver, et c'est très difficile, quand on se réclame des politiques d'émancipation, à faire le tri ou à travailler dans ce truc d'inquiétude, d'angoisse, etc., en ayant en tête effectivement l'histoire coloniale, etc., et à se dire, il ne faut jamais céder sur le racisme et autres que pourrait, et que charrie évidemment un discours anti-musulman. Et en même temps, il ne faut pas se voiler la face, si j'ose dire, sur le fait qu'aujourd'hui, le rapport de force de ceux qui se réclament de l'émancipation sociale, etc., à l'échelle mondiale, vis-à-vis de ceux qui se réclament d'un certain islam politique, etc., à l'échelle mondiale à nouveau, il n'est pas très très favorable. Parce que toutes les religions sont travaillées par des rejeux politiques, par des crispations meurtrières, hein, c'est évident, mais il faut faire attention à ce qui se passe de spécifique dans les unes et dans les autres.
Voilà. Et moi je dois dresser toute cette salle pour demain midi, donc il va falloir que vous concluiez.
Voilà. Ça y est,
et si vous voulez traîner ensuite,
merci.
Il y a le bar en bas.
Okay. Merci, c'est sympa.
Il n'y a pas trop de monde, vous pouvez tous y aller.
Ok,
merci.
Tu conclues ?
Je conclue en une minute parce qu'on vient de nous donner un conseil amical. Donc je vais répondre juste à mon ami sur Alice et à René. Bon, sur la spiritualité, c'est un peu plus compliqué. Si tu regardes un film sur Alice qui s'appelle L'invention du monde, tu dois le connaître, texte écrit par Benjamin Perret, qui parle des arts sauvages, il n'arrête pas d'expliquer comment l'art des Océaniens, des Indiens, etc., est imprégné avec les esprits, l'esprit de la forêt, l'esprit de l'animal, l'esprit de l'étoile, etc. Donc, il y a une spiritualité qui intéresse les surréalistes parce qu'elle est chargée de poésie, de merveilleux et de tout ça. Donc je pense que la question est un peu plus compliquée. Maintenant, à René, je voudrais répondre à ce que tu as dit. Je comprends ton point de vue. Moi-même, je suis athée, hein, je me considère comme athée, et j'aime beaucoup le mot d'ordre de ni Dieu ni maître, d'ailleurs. Bon, cela dit, la question philosophique est importante, mais la question politique est plus importante. Donc, la priorité, c'est d'unir tous les exploités, les opprimés, dans le combat commun, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Bon, et la discussion philosophique, on peut l'avoir ensuite dans des revues, dans des congrès, etc. Bon, donc, au Chiapas, qui est l'expérience peut-être libertaire la plus intéressante aujourd'hui, bon, dans l'armée zapatiste et libération nationale, on ne demande pas aux jeunes paysans qui arrivent, ou à la jeune paysanne, parce qu'il y a des femmes aussi, si elles croient en Dieu ou pas. À la limite, on s'en fout. Bon, c'est pas ça le critère, quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut distinguer les discussions philosophiques qui sont intéressantes de l'action politique où il faut avoir d'autres critères. Voilà, j'ai terminé, sinon pour le reste, mes amis ont déjà dit l'essentiel.
Merci
à tous.
Je me réconcilie à un groupe.